Des sous et des amants. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité aujourd'hui, comme la semaine dernière,
Michel Husson,
qui est toujours chercheur à l'IRES. Et il a toujours écrit « Les casseurs de l'état social » aux éditions La Découverte, avec comme sous-titre « Des retraites à la sécu, la grande démolition ». Alors la semaine dernière, on avait fini l'émission un petit peu entre déprimé et joyeux après avoir lu votre livre en tous les cas. Et vous disiez globalement que ce que je vous avais dit, mais je comprends pas bien, parce que les capitalistes ou les libéraux, je sais pas comment il va falloir les appeler, finalement, si la branche sur laquelle ils sont assis, puisque par la modération salariale qu'on subit depuis une vingtaine d'années environ, si par exemple à moi on ne me donne pas de sous, je vois pas comment je vais pouvoir acheter. Si je peux pas acheter, je peux pas faire tourner les entreprises. Ça a l'air d'être une espèce de truc sans fin. Et là, vous m'avez dit oui. Mais c'est qu'en réalité, il y a des arbitrages qui ont été faits en réalité et qu'on préfère privilégier la rentabilité et un partage différent de la valeur ajoutée. Alors c'était quand même un peu crypté comme message mais voilà, j'aimerais bien en savoir plus.
Ben, c'est une longue histoire. Alors de manière générale, le capitaliste a cette contradiction. C'est-à-dire qu'il veut faire le maximum de profit, mais en même temps, il faut qu'il vende ses marchandises. Bon, et en général, il vend ses marchandises aux gens qui sont salariés maintenant, enfin dans le capitalisme développé. Et donc, il y a une contradiction. Il a intérêt à baisser les salaires pour avoir plus de profit, mais s'il baisse trop les salaires, il n'arrive plus à vendre ses marchandises, et donc le profit reste virtuel. Donc, aujourd'hui, avec l'Europe libérale, cette contradiction, elle est gérée de la manière suivante. C'est-à-dire, et je pense qu'il faut introduire deux dimensions. Au niveau intérieur, on privilégie le fait, modération entre guillemets, enfin la baisse de la part des salaires. Pourquoi ? Parce que c'est l'analyse, enfin c'est le rapport de force qui s'est institué. C'est l'idée qu'on va rétablir la rentabilité, que c'est ça qui va faire redémarrer l'économie. Bon. Et d'une certaine manière, cette préférence est codifiée autour de la théorie dite du NERU ou du taux de chômage d'équilibre, qu'on a vu rediscuter au moment où justement on crée des emplois et on commençait à reparler de plein emploi, il y a eu des rapports sur cette question, etc. Et on voit apparaître cette théorie de manière assez explicite, consistant à dire, bon, en gros, le taux de chômage d'équilibre, c'est celui au-dessous duquel on peut pas descendre, sous peine de déclencher des effets pervers qui vont nous ramener de toute manière au point de départ. Donc, la règle du jeu, le mécanisme, c'est le suivant. Si l'économie va bien et qu'on crée beaucoup d'emplois et donc qu'on fait baisser le taux de chômage, alors les salariés sont dans une meilleure situation pour demander, enfin plus accepter, demander, obtenir de meilleurs salaires ou de meilleurs statuts, ce qui revient un peu au même. Bon. Et à partir de ce moment, la part des profits est menacée. Et donc, pour répondre à cette augmentation des salaires, les employeurs, les capitalistes, bon, appelons-les comme on veut, augmentent leurs prix pour conserver la part qui va au profit. Bon. Et c'est pour ça que l'inflation, alors ce taux de chômage s'appelle en anglais NERU, ça veut dire le taux de chômage qui n'augmente pas, qui n'accélère pas l'inflation. Et c'est pour ça que l'inflation est une espèce de dogme, hein, qui serait difficilement compréhensible si vraiment on prenait au mot ce qu'elle désigne, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus d'inflation, et la Banque Centrale Européenne a une espèce de vision névrotique des menaces d'inflation, enfin c'est complètement absurde, sauf que cette inflation, en fait, si on décrypte, ça veut dire augmentation des salaires. Là on comprend mieux, c'est-à-dire il y a un certain taux de chômage au-delà duquel les salaires augmentent. Bon, et il ne faut pas descendre en dessous, parce qu'on préfère donc une économie qui marche un petit peu ralenti, qui crée pas beaucoup d'emplois, enfin pas trop, plutôt qu'une économie qui crée beaucoup d'emplois, mais dans un régime où, en somme, la part du profit est menacée, risque de baisser, où on risque de revenir au partage de la valeur ajoutée qui existait au début des années 80. Donc tout ce débat sur comment il se répartit, etc. Et alors, il y a deux autres éléments qu'il faut faire intervenir. C'est les intérêts particuliers de la finance. Hein, c'est-à-dire qu'ils sont des gens qui vivent de ce partage-là, hein, et qui retirent des revenus financiers, qui ne vont pas s'investir. Et il y avait aussi, bon, à décharge, parce que cette contradiction était, comment dire, analysée, il y avait à décharge une hypothèse qui maintenant est largement, qui s'est révélée peu viable, quoi, qui était celle de la mondialisation. C'est-à-dire qu'en gros, l'Europe aurait un marché intérieur peu dynamique, mais c'était la base, en somme, sur laquelle, en rétablissant le profit des entreprises, donc leur capacité d'investissement, elles allaient conquérir le monde. Donc une vision où la mondialisation jouait un rôle. Or maintenant, les deux éléments, c'est que le marché intérieur, pour prendre la conjoncture telle qu'elle est, elle existe en Europe depuis 2-3 ans, c'est en Europe, il y a un marché intérieur qui est plat, hein, donc on n'en investit plus, il n'y a plus de croissance, il y a une récession importante dans toute une série de pays, et sur le plan de la mondialisation, les États-Unis ont changé leur politique économique et ont décidé de croître au détriment du reste du monde et d'ouvrir une guerre qui passe par une guerre comme, enfin, qui est d'autres formes de guerre, mais qui passe par une guerre monétaire, c'est-à-dire la baisse du dollar qui rend les exportations européennes peu compétitives. Donc on en est là, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui effectivement n'est pas cohérent.
Des sous et des hommes toujours en compagnie de Michel Husson. Alors tout à l'heure vous disiez que finalement ce qui avait été choisi c'était de rétablir les profits alors j'ai pas très bien compris quel est l'intérêt de rétablir vraiment les profits vers la population en train de crever à côté, mais il faut rétablir les profits, là je vois pas trop la logique, pourquoi il faut rétablir les profits, enfin je vois bien l'intérêt pour des capitalistes de faire des profits, mais pour la société je vois pas comment des gouvernants pourraient soutenir ça, voilà c'est ça que je comprends pas.
Parce que avant il y avait une régulation qui imposait d'une certaine manière aux gens qui faisaient du profit d'en redistribuer un peu pour que les gens crèvent pas de faim pour aller vite. Bon, et maintenant cette espèce de pression a plus ou moins disparu parce que les néolibéraux qui trouvent que c'est très bien cette jungle comme ça, donc c'est leur modèle, la société du risque, donc. Dans, j'essaie de discuter un petit peu dans le bouquin. Bon, eux, ils trouvent ça bien. Donc et puis, l'autre aspect, bon, enfin, je ne sais pas si je peux trop m'apesantir, mais c'est l'idée du social-libéralisme, c'est-à-dire la social-démocratie européenne, qui s'est dit, oui, c'est inéluctable, oui, c'est moderne, donc tout ce qu'on peut faire, c'est accompagner un peu. Donc, la résistance à ce basculement était trop faible, quoi. Et ensuite, l'espèce d'absence de cohérence, c'est bon, il y a des éléments de crise aujourd'hui, donc effectivement, ça c'est un premier point. C'est-à-dire, on est en train de défaire le modèle social, et je veux dire, et ce qu'on met en place est absolument pas légitime. C'est-à-dire, personne ne demande, et puis c'est une régression pour une majorité de gens, mais une majorité assez large dans un grand nombre de cas. Et en plus, les derniers remparts, les derniers pays qui étaient, disons, l'archétype de ce modèle social, mais sont en train de basculer de l'autre côté. L'Allemagne, par exemple, de ce point de vue-là, ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire des contre-réformes très dures menées en plus par un gouvernement SPD, socialiste vert, c'est le dernier carré, quoi. Il reste peut-être la Suède ensuite, mais je veux dire, il y a vraiment un recul et un basculement vers ce modèle néolibéral, hein. C'est-à-dire l'idée que dans l'Europe, il y a un modèle social européen qui pourrait contrebalancer ça, est en train de basculer en Allemagne, je pense. C'est un truc très important. Et l'autre aspect, c'est du point de vue des intérêts des capitalistes. Bon, alors il y a ceux qui reçoivent des dividendes, des actions, etc. Bon, ceux-là, ils s'en fichent un petit peu de comment, enfin, quelles sont les contreparties. Mais en revanche, disons, les capitalistes qui ont des intérêts à ce que ça tourne, etc., avaient fait une espèce d'alliance assez homogène sur l'idée que ce qui comptait, c'était de faire reculer le coût du travail. Donc ça, c'était l'aspect principal, et que cet avantage-là, tout le monde était d'accord là-dessus, dans leur groupe, si on peut dire. Et puis, les inconvénients étaient relativement mineurs, il y avait l'hypothèse de mondialisation, enfin, en tout cas, c'était par là qu'il fallait en passer. Maintenant que les aspects contradictoires apparaissent, d'une certaine manière, ce bloc éclate, est en train de se distendre. Et au niveau, donc, bon, il y a d'une part les petites entreprises qui ont un marché local, etc. Donc, la mondialisation, elles sont out. Et donc, ce qui les importe, c'est qu'il y ait une croissance de ce marché local. Et ensuite, dans les grandes entreprises, il y a celles qui ont plutôt une vocation européenne et celles qui ont une vocation, disons, directement mondiale. Donc, si c'est pas bon en Europe, ça fait rien, elles vendent aux États-Unis. Celles-là ont une espèce de stratégie d'horizon qui est pas européen. Mais l'espèce d'accord qu'il y avait entre eux est en train de basculer. Et on en voit, alors les exemples, c'est très concret, c'est d'une part La tension entre Francis Maire, enfin le gouvernement français, et les règles du jeu du pacte de stabilité, en disant nous on est dans une situation telle qu'on veut pas, on peut pas appliquer le pacte de stabilité, ce qui est quand même un truc fantastique, parce que c'est bon, dans la période où il y avait une bonne croissance, le pacte de stabilité s'appliquait pas parce que tout baignait, et le premier retournement, ça pète, en fait on s'aperçoit qu'effectivement c'est pas gérable. Et l'autre élément, c'est l'idée qu'on voit traîner de politique industrielle européenne, c'est-à-dire et qui s'est focalisée autour de l'histoire d'Alstom. Et il y a pas eu de déclaration. Même Berlusconi a proposé des plans de relance au niveau européen, qui étaient surtout centrés sur ses propres entreprises, à vrai dire, mais qui montrent que il y a la compréhension que il y a une différence d'intérêt de toute une série de groupes européens. Par rapport à ceux qui sont ultra mondialisés et y compris cette tension se retrouve dans les rapports entre Europe et États-Unis qui sont beaucoup plus conflictuels compte tenu du basculement du dollar.
Mais est-ce que ça veut dire que justement il va y avoir une possibilité de voir la casse de l'État social dont vous parlez dans votre livre s'arrêter? Parce que si effectivement actuellement l'espèce de grands groupes qui pouvaient souhaiter cela éclate, il y a peut-être des possibilités pour que ça s'arrête.
Oui, alors l'élément de crise, c'est que, enfin, on dit toujours, vous n'avez pas d'alternative, mais eux non plus. Enfin, et donc, ils ont un truc très structuré, avec, enfin, même des aspects de philosophie, de modèle social très fort. Et brusque, il y a des vrais problèmes. Mais c'est ça qui est étonnant, leur seule solution, enfin leur seule issue, tellement ils avaient ce point de cohérence, c'est la fuite en avant. C'est donc, au lieu de dire, bon, ça marche pas notre truc, on va essayer d'infléchir, c'est toujours plus. Et par exemple, sur les politiques néolibérales, avec la récession aujourd'hui, hein, on pourrait dire, ben, finalement, notre truc, ça marche peut-être pas aussi bien que ça, donc il y a des éléments d'autocritique et tout. Et en réalité, non, il y a un discours qui dit « Ah ben, c'est qu'on n'en a pas encore fait assez ». C'est-à-dire que quand ça marche bien, c'est grâce aux politiques néolibérales, et quand ça marche mal, c'est parce qu'on n'a pas fait assez de politiques néolibérales. Donc, leur réponse, c'est pas de reconsidérer leur stratégie d'ensemble, mais c'est au contraire de l'approfondir. C'est ce qui rend la situation extrêmement dangereuse. Et ce qui rend aussi, c'est une autre idée du livre, que j'avais comme ça un peu idéologiquement, mais où j'ai vraiment été convaincu, c'est l'idée de vouloir faire des compromis un peu stables est une absurdité par rapport à la dynamique qui est en face, justement, qui est une dynamique du toujours plus, quoi. C'est-à-dire que ce qui est frappant, c'est que ils ont une volonté de retour, enfin c'est très radical. Et le fait de faire une espèce de compromis
de compromis entre ceux qui souhaiteraient garder un certain nombre d'éléments.
Voilà, disant, bon, on va faire, par exemple, la position de la CFDT sur la retraite, qui est de dire, c'est un compromis acceptable et ça permet de sauvegarder en partie, d'ajuster. Donc, on peut discuter en règle générale. Mais là, je pense que sur ce type de sujet, c'est une erreur, disons, d'appréciation de ce qui se passe, enfin, des vraies stratégies des acteurs qu'on a en face de soi. À savoir qu'au lieu de considérer qu'il y a un compromis et donc on va jouer le jeu, ils vont considérer que chaque concession est le droit à demander de nouvelles concessions. Et par exemple, le test, c'est... Sur les retraites, là, c'est aujourd'hui, c'était la semaine dernière, mais enfin, c'est la discussion sur les retraites complémentaires, la AGIRC et ARCO, où les positions très dures du MEDEF font dire qu'ils veulent engranger encore quelque chose et non pas jouer le jeu du compromis, puisque dans la réforme Fillon, implicitement, il y a des choses qui supposent une espèce de transposition, comme on dit au niveau européen, sur les retraites complémentaires. Donc là, on a des leçons de choses très pratiques de cette idée-là, quoi. Et c'est pour ça qu'on est dans une situation où les options sont radicales, quoi. Et pas par goût, par choix, mais parce qu'on est dans une disposition entre les acteurs sociaux qui porte à la radicalité et qui squeeze ce qui est le compromis, la régulation, etc. Parce qu'on est dans une situation, en somme, de déséquilibre.
Radicalité, c'était un des derniers mots que vous avez prononcé juste avant la musique. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on descende donc tous dans la rue en permanence pour essayer de défendre le modèle auquel nous croyons ? Est-ce que c'est ça la solution?
Ça peut dire ça, parce que on a l'impression d'une certaine manière que, bon, la seule chose qui peut arrêter leur projet, c'est pas de trouver un équilibre, une régulation sociale à peu près harmonieuse, ou c'est les résistances qu'ils rencontrent. Hein. Et au fond, ce qui est assez impressionnant, quand on regarde même les textes du MEDEF, enfin qui sont pas tels qu'ils s'expriment, l'objectif qui se fixe est une transformation vraiment très très profonde de toute une série de choses. Donc on a vraiment l'impression que ensuite ils font de la politique et donc ils modulent. Mais par exemple sur les 35 ans, ils étaient très très vindicatifs et très furieux. D'ailleurs, il y a eu récemment cette offensive un peu revancharde. Mais au fond, c'est qu'au fond leur projet, c'est de supprimer la durée légale du temps de travail, quoi. Et donc les 35 heures étaient vraiment allés tout à fait dans le mauvais sens, et ils sont prêts, c'est pareil pour et par exemple le contrat qu'ils ont fait, le contrat de projet, nouveau contrat de travail est fondamentalement une espèce de quelque chose qui revient à faire des contrats où justement cette notion de durée du travail disparaît. Et leur rêve, c'est d'embaucher les gens uniquement quand ils en ont besoin, quoi, par exemple. Bon, et donc c'est ça leur projet, et donc ils avancent. Et s'ils voient des résistances, ils modulent. En France, il y en a pas mal, finalement. Mais sinon, ça risquerait d'aller encore plus vite. Donc ça, c'est... Mais de manière plus générale, pour définir les projets, si on prend conscience qu'on est en face un adversaire, bon, parce que on résiste, donc c'est vraiment un adversaire, que lui est très radical et prêt à aller très loin, bon... Il faut adopter sa stratégie en fonction de ça. C'est-à-dire qu'il faut un degré de radicalité adéquat au degré de radicalité qu'on trouve. Et donc c'est pour ça que l'idée de faire des compromis, d'accompagner ce mouvement pour lui donner, alors que c'est un mouvement complètement destructeur, c'est quelque chose qui est tout simplement pas adapté. Bon, c'est-à-dire ils veulent détruire la Sécu. On peut pas accompagner un mouvement de destruction de la Sécu en préservant, pour sauver la Sécu. Donc, je veux dire, on va freiner le mouvement, mais à peine, parce que c'est même plus subtil que ça. En faisant des concessions, on fournit des marchepieds. On pourrait donner des exemples. Par exemple, les plans dans le rapport, dans la réforme Fillon, il y a des fonds de pension qui s'appellent plan d'épargne individuelle retraite, mais ils s'appuient sur quelque chose qui avait été un compromis du point de vue de la gauche au pouvoir, c'est-à-dire les plans d'épargne volontaire de Fabius. Ils les prennent, ils les transforment, il n'y a pas beaucoup besoin de les transformer. Donc c'est un bon exemple du compromis ou quelque chose à l'air du temps et qui est utilisé quand la droite revient pour le néolibéraliser, lui donner lui faire faire quelque chose qui n'était pas prévu, etc. Bon, et alors l'autre caractéristique de cette nouvelle radicalité, c'est qu'elle demande des choses relativement possibles, c'est-à-dire qu'elle ne demande pas la Lune. C'est ça qui est frappant. C'est-à-dire qu'au fond, demander un accès à la santé gratuite, c'est pas révolutionnaire dans le sens où, au fond, c'est le prolongement, ça serait la consolidation de ce qui existe déjà. Bon, les retraites, c'est pareil. Et donc, c'est ça qui fait la force de cette nouvelle radicalité, c'est qu'elle n'est pas fondée sur un projet... Je dirais une espèce d'utopie un peu rêvée, du genre « Ah, ça serait bien une société où on puisse se soigner gratuit », parce qu'en fait, d'une certaine manière, on y a été, on veut nous en faire sortir. Alors, mais c'est sa faiblesse aussi, parce qu'on apparaît comme archaïque, et donc il y a tout un enjeu consistant à montrer que la libéralisation, la privatisation, c'est pas forcément le progrès obligé, et que ça recouvre en réalité des régressions sociales. Mais il y a plein d'exemples maintenant. Je citais l'exemple du système de santé des États-Unis, qui est franchement personne, si on avait le choix, si on donne les éléments de choix. Tout le monde choisit le système français, c'est évident, quoi. Donc, on a plein d'exemples sur les trains anglais qui sont en train de renationaliser parce qu'ils ont joué le jeu à fond de la privatisation et puis les trains se rentrent les uns dans les autres. Donc, c'est des éléments très factuels. Les coupures d'électricité, il y en a presque dans tous les pays maintenant. Sauf en France, parce qu'il y a EDF. Enfin, je ne veux pas être le super... mais tous les gens qui regardent de ça de près, qui s'y connaissent un peu, disent c'est de la folie absolue. Bon. Donc il y a un projet qui est, enfin, je veux dire, il y a des, il y a, c'est ça qu'il faut de plus en plus expliquer en s'appuyant justement sur ces défaillances, montrer que ce projet est pas un projet ni utopique, rêvé, bon, le monde idéal, etc., ni archaïque, c'est-à-dire, mais justement que il faut redéfinir une nouvelle modernité, que c'est vraiment ça l'enjeu, quoi. C'est-à-dire que au fond, c'est ultra moderne de dire. Je vis dans une société, bon, opulente, et le fait d'être dans cette société me garantit des droits sur la santé, l'éducation, etc. Et le recours aux trucs marchands, aux éléments de risque, est quelque chose que les gens ne veulent pas, et qui, de point de vue d'une espèce d'efficacité sociale, est pas efficace, quoi. C'est-à-dire que, bon, évidemment, vous soignez que les riches. Bon, d'accord, c'est facile, tout le monde peut faire ça. Soigner que les riches, et puis les pauvres, ils crèvent ou ils ont des dents qui se déglinguent. Donc tout le monde peut faire ça. C'est la facilité, ça n'a rien d'efficace. La vraie efficacité, c'est de redistribuer, de garantir qu'effectivement tout le monde soit soigné correctement. Puis les riches auront toujours le droit de s'acheter 50 paires de lunettes s'ils veulent en rab.
Et donc c'était Michel Husson qui nous parlait de la modernité, ça fait plaisir à entendre et ça nous change. Il a donc écrit un livre qui s'appelle « Les casseurs de l'état social », sous-titre « Des retraites à la sécu », ça s'appelle « La grande démolition ». Il y a une partie justement optimiste à la fin qui essaye de recadrer les choses, d'essayer de nous faire espérer et croire qu'il est possible de défendre quelque chose sans être effectivement un ringard, un archaïque. Dieu sait pourtant qu'on entend ça. Donc c'est un bon petit livre, « Les casseurs de l'état social », 6,40 € seulement, c'est aux éditions La Découverte. À la semaine prochaine, sans doute. Alors attention les yeux, je vais enfin faire le montage de quelque chose de difficile. C'est une émission que j'avais enregistrée il y a longtemps avec Jean-Marie Arribet sur la monnaie. Tout ce que vous avez voulu savoir sur la monnaie en 3 émissions, ça va être terrible. À la semaine prochaine.